This is the joint meeting of the ICANN board and the commercial stakeholders group in the Atlas Room from 11 to 12:30 on March 8th, 2016.
Megan is Phil. Okay, that's good.
I was trying to be Sally.
Okay, yeah.
Be Sally. Yeah.
Sally.
Those glasses are cool.
Okay, you're Sally. Just adapting to things all over the place.
I
put duct tape around this because it's. Do you want some?
No, I actually have a collar.
You put it over your first shirt.
It's a shame that don't have a collar.
Oh my, and it scratches. Sometimes it really hurts. Yeah. Okay.
Oh my God,
there we go.
Yeah, I've been admiring it as well.
It's really beautiful.
That's the engagement ring.
It's your engagement ring, isn't it?
It's beautiful.
I love that it's not a diamond.
Well, no,
it's just fantastic, yeah, though, the design.
This is they call it B01.
Mm-hmm.
It's a special design from Rome, so Bulgaria is your
highest. Do you feel uncomfortable wearing your watch?
No, I just, I don't know, I don't know. Actually, it's another story. So we got lost. So all my beautiful watches have disappeared. And I know the next person is actually the white one.
Hi. Good morning, everybody.
Bonjour à tous. Steve Crocker au micro. Il s'agit de la session de partie prenante de l'unité constitutive commerciale avec le bureau d'administration de l'ICANN. Et comme d'habitude, le groupe est représenté par les directeurs de chacune des unités constitutives ou de leurs représentants, un petit groupe de chaque unité constitutive de la délégation des commerciaux. Le groupe a Le groupe essaie de rassembler ses représentants du mieux possible. Nous sommes heureux d'avoir notre prochain PDG, Yoran Marvi, présent avec nous aujourd'hui. Il observe la réunion et nous espérons que par la suite, il va continuer à venir nous voir. Voilà, c'est votre réunion. Nous sommes là pour vous écouter, pour répondre à vos questions et nous essayons de vous donner le plus de substance possible. Nous allons passer outre les plaisanteries et nous allons commencer à travailler. Si voulez-vous commencer, Steve Metallic, avec l'unité constitutive sur la propriété intellectuelle. Nous avons un groupe ici qui va présenter nos informations. Nous sommes heureux d'avoir l'opportunité d'être ici. Nous avons identifié deux questions aujourd'hui et nous allons aussi essayer de répondre à une des questions qui a à faire avec la diversité, puisque le bureau d'administration nous a demandé d'en parler. Je sais que nous avons déjà conversé là-dessus avec Bruce et Marcus, mais le stimulus immédiat au niveau de la mise en œuvre, un consensus de politique a été adopté par le cours d'administration il y a 2 ans quand il s'agit de l'architecture WUIS adoptée par les bureaux d'enregistrement. Nous avons un calendrier ici qui dure depuis 4 ans et demi, depuis que la GNSO a commencé à travailler sur ce sujet. Il y a un rapport final qui avait été adopté par le conseil d'administration il y a 2 ans, donc à la fin de 2014. Pour résumer, il s'agit d'un opérateur de registre qui opère donc 3 registres. Sur le calendrier, nous n'allons pas voir ce changement d'ici la fin de 2017. Donc cela va prendre 4 ans pour un opérateur de registre qui a donc 4 registres d'être pour qu'il soit conforme au consensus qui a été adopté en 2014. Nous avons discuté avec Bruce et Marcus et nous avons fait une présentation devant la GNSO. Et nous avons parlé d'autres questions dont je n'ai pas la liste. Mais il semble qu'il y ait une carence entre l'adoption du consensus sur ces politiques et le temps où ces politiques sont mises en œuvre. Brian Holland a fait donc des remarques là-dessus. Les choses à en disant que les choses à l'ICANN allaient se déplacer lentement. Mais nous savons que maintenant, nous avons des activités un peu plus rapides et maintenant, il y a quand même des choses qui avancent lentement. Cela pose quelques questions au niveau de l'excellence opérationnelle et de l'habilité, la capacité de livrer sur des politiques qui ont été donc adoptées. Il y a une autre raison qui est inquiétante. Mes collègues en parleront tout à l'heure. Il s'agit du fait que même après que les nouveaux GTLD, même tous les GTLD d'ailleurs, quand ils ont été reconnus au début de l'ICANN, quand les choses n'avaient pas été réglées en 2012 dans le contrat, il y avait beaucoup de frictions à propos de l'accord du bureau d'administration sur ces conditions. Nous avons maintenant appris que entre l'ICANN et VeriSign, il devait y avoir une proposition qui devait être faite sur une extension de ce contrat qui expire en 2018. Nous allons pouvoir observer cette question et étudier les dispositions qui sont dans ce contrat pour voir si ce sont les mêmes dispositions que pour les 5 autres grands opérateurs de registre. Nous ne savons pas si nous allons le faire en 2018, mais c'est le plan. Et nous pensons que le plan va être étendu jusqu'à 2026, ou plus tard d'ailleurs. Et ainsi, la communauté ne pourrait donc pas intégrer de nouvelles choses dans les révisions du contrat. Et comme vous le savez, ce contrat, je parle du contrat .com, doit être révisé par le gouvernement américain, même après la transition d'ailleurs. Donc nous sommes inquiets qu'il pourrait y avoir une extension sans changement. Et c'est pour ça que nous avons des inquiétudes. Même si la politique change, cela prendra tellement de temps, du temps que nous pensons est beaucoup trop long, pour mettre en œuvre les choses. Donc je ne veux pas blâmer qui que ce soit. Je pense qu'il y a certainement des explications. Quelqu'un doit être responsable quelque part, mais nous sommes inquiets sur la mise en œuvre de ces politiques. Et nous voudrions demander au bureau d'administration d'accélérer le processus, si vous voulez. Nous voulions donc vous démontrer nos inquiétudes et vous demander s'il pourrait y avoir un système qui soit plus simple au niveau du .com, du contrat.com. Si David ou quelqu'un d'autre veut en parler, David Hughes au micro. Je suis de IPC. Pic. Je représente bien sûr les représentants des propriétés intellectuelles. Le TLD.com est important pour les affaires. C'est quelque chose auquel nous pensons tout de suite et c'est celui qui est le plus lent. Donc, le calendrier dont Steve a parlé nous frustre énormément. Et nous voudrions que le bureau d'administration le comprenne. Kerry au micro. Je voudrais souligner aussi que le calendrier est inquiétant. Le WHOIS détaillé est donc une des questions les plus importantes. Donc, si nous allons perdre du temps sur le WHOIS détaillé, combien de temps allons-nous passer avec la mise en œuvre des recommandations qui sortent du PDP? Donc, c'est quelque chose sur lequel nous devons discuter. Comment faisons-nous face à la mise en œuvre de ces politiques et comment nous allons être affectés dans l'avenir? Tous nos clients veulent savoir s'ils peuvent compter sur le WHOIS pour leurs activités. Il est donc très difficile pour nous de répondre et de dire 10 ans, parce que, en fait, c'est une chronologie réaliste, mais c'est un calendrier quand même très long. Merci. Bruce Tonkin, oui, j'aimerais faire quelques commentaires. Ensuite, je passerai la parole à Cyrus. Il y a deux, trois choses dont vous avez parlé, vous et vos collègues. Tout d'abord, le WHOIS détaillé correspond à une politique de consensus. Même si le contrat de .com nous demande de mettre en place des politiques de consensus, aussi il y a des exigences pour que les opérateurs de registre mettent en place la nouvelle version ou, disons, un protocole qui s'appelle Ernet. C'est une exigence contractuelle, pardon. Tout cela doit être mis en œuvre par les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement. Il y a eu un commentaire qui a été fait sur la facilité des WHOIS. Quand il s'agit de la mise en œuvre, il ne s'agit pas de quelque chose de facile. Vous parlez de 100 millions de données sur des gens différents. Donc, il s'agit de 1000 endroits différents dans le monde. Donc, il y a un processus qui a été utilisé auparavant, puisque nous l'avons utilisé pour .org, pour l'opérateur de registre .org, qui est devenu d'ailleurs un registre détaillé maintenant. nous devons obtenir toutes les dates, toutes les données, les opérateurs de registre. Ça a été déjà fait, mais ça ne se fait pas en 2 semaines. Donc le défi, je pense qu'il y a des problèmes avec les dispositions contractuelles. Nous avons un WHOIS détaillé et nous avons un RDAP. Et les deux ont besoin d'être mis en œuvre. Donc, il s'agit de... Nous devons travailler sur cette mise en œuvre. Je vais donc demander à Cyrus de nous donner les grandes lignes de cette mise en œuvre. Cyrus Namazi, du personnel GDD. Je voulais juste souligner ce que disait Bruce. Je voudrais parler de la complicité de la mise en œuvre du WHOIS détaillé. Cela ne comprend que 3 TLD, mais il s'agit quand même de 100 000 enregistrements. Donc, c'est une question très compliquée. C'est un environnement très fluide. Les lois sur la vie privée changent. Et il faut qu'on se préoccupe de beaucoup de choses. Donc, au niveau de la mise en œuvre, il y a 2 voies parallèles. En ce moment, il s'agit de faire face à l'étiquetage et ça fait partie donc de la politique, mais cette chose fait partie du PDP qui va se terminer, de commentaires publics qui va se terminer en mars. Donc ce qui se passe ici à Marrakech va être intégré dans ces commentaires publics. Il y a aussi la transition, le personnel y travaille depuis longtemps. La prochaine étape est pour que le prochain processus de mise en œuvre est pour que le IRT atteigne donc tous les bureaux d'enregistrement. Et cela concerne des centaines et des centaines de bureaux d'enregistrement. Cela prend donc très longtemps, mais il y a tellement de variables entre les deux. C'est une situation qui demande énormément de temps. Ce n'est pas que nous avons du retard, c'est que c'est beaucoup de travail. Steve McCallick au micro. J'apprécie vos commentaires. Nous en avons parlé cette semaine, vous et moi. .org n'a pas pris 4 ans. Et nous sommes là, 25 mois après les agissements du conseil d'administration, sans qu'il y ait un plan de mise en œuvre en place. Je comprends qu'il y a d'autres variables, mais je pense que nous sommes déçus de voir que cela ne fonctionne pas. Quand il y aura des changements plus complexes qui seront sur la table pour la nouvelle génération de RDS, par exemple, cela va rendre les choses compliquées. Je ne veux pas qu'il s'agisse seulement d'un WHOIS détaillé ou des .com. Il y a d'autres questions beaucoup plus importantes quand il s'agit de la mise en œuvre, du calendrier en général. J'encourage donc le bureau d'administration de récolter des données pour voir combien de temps cela va prendre de mettre en œuvre ces politiques. À cause de .com, comme disait Brooke, l'inquiétude du WHOIS détaillé qui est dans le contrat de .com nous permet de voir qu'il y a un problème. Il y a d'autres questions sur lesquelles nous devrions nous pencher. Il y a maintenant une extension simple du contrat et je pense que ça pourrait être une erreur. Boustankin, je pense que nous allons nous intéresser à la mise en œuvre. Il s'agit de parler donc du côté opérationnel. Et il faut vraiment que l'on regarde quel est le calendrier pour ces mises en œuvre. Je vais demander à Chris Disbain de parler de cela. Je pense qu'il va vous dire que le conseil d'administration est au courant de ces problèmes. Chris Disbain, oui, nous avons un groupe de travail dont je suis la présidence au sujet du WHOIS détaillé. Cela comprend bien sûr des services d'opérateurs de registre du Next Generation. Nous en avons parlé avec le groupe de la GNSO qui nous a fait son résumé. Je voudrais je serais tout à fait confortable si vous pouviez mettre donc une personne, un contact, une personne qui serait notre contact vers vous, afin que nous puissions discuter de tous ces problèmes avec vous. Si vous avez donc besoin de nous, nous sommes là et nous sommes heureux d'en discuter avec vous. Merci. Sylvie Metallic, merci de votre offre. Quand on... Qui est au micro? C'est Bruce Tompkins, pardon. Nous en discutons au bureau d'administration, mais maintenant que nous avons entendu vos questions sur le sujet, nous allons en reparler. Nous allons parler aussi du renouvellement d'autres contrats, entre autres. Et notre position en général sur cette situation est que les contrats peuvent être renouvelés sous les termes actuels, comme on l'a fait pour les nouveaux GTLD. De toute façon, toute autre chose que nous pourrions faire passerait par un processus public. Nous pourrions rajouter un paragraphe ou... Si nous devons rajouter des recommandations, cela passerait à travers une révision publique. Bruce Tompkins, ce que j'avais compris, c'est que ce soit... toutes les choses que le bureau d'administration devait faire pour le .com devaient être disponibles pour des commentaires publics. Et c'est ce qui a été dit dans la presse, d'ailleurs. Nous devrions passer à notre prochain... sujet. Notre prochain sujet, je suis Greg Chatten, je suis directeur du IPC. Nous voulions dire qu'il y avait encore des défis de toutes sortes lorsqu'il s'agit des commentaires publics, des périodes de commentaires publics. Souvent, ils sont erronés et se chevauchent. Je pense que nous avons 5, 6 ou 7 périodes de commentaires publics qui sont encore ouverts et qui sont publiés sur la page de commentaires publics. Il y a des obstacles, si vous voulez, pour intégrer ces pages. Les gens ne savent pas forcément qu'il y a toutes ces commentaires publics qui sont sollicités. Et cela rend les choses très difficiles à trouver pour les parties prenantes. Nous savons aussi que les commentaires publics sont souvent trop courts ou se trouvent durant des périodes de vacances ou des périodes où il y a des réunions. Donc, c'est une inquiétude pour nous. Il y a donc des obstacles pour tous, pour nous, pour la communauté, afin que nous puissions analyser les propositions de responsabilité. Il y a des problèmes de chronologie. Ou de calendrier, pardon. Les commentaires viennent de la communauté. Donc, en tout, nous savons aussi qu'il y a des commentaires qui viennent de toutes directions. Nous essayons de trouver une façon de faire un suivi afin d'éviter que les bénévoles travaillent trop. C'est vraiment un problème qui est récurrent pour nous. Il semble que les périodes de commentaires soient ouvertes un vendredi soir à 17h, heure de Los Angeles. Donc, pour nous, quand il s'agit de les voir, c'est déjà le troisième jour. Si vous êtes à l'est des États-Unis, par exemple, donc, ou en Amérique du Sud. Donc, en général, nous aimerions qu'il y ait moins de chevauchement au niveau des périodes de temps de commentaires publics qui sont souvent trop courtes. C'est la première chose que je voulais dire, mais bon, je vais m'arrêter là.
Oui, alors sur cette question des commentaires publics, quelle serait votre suggestion? C'était Bruce au micro. Alors, Greg au micro, oui... Peut-être réunir tous les commentaires publics sur une page plutôt que d'avoir 3 pages différentes pour ces RSEP, ensuite avoir la possibilité de commenter. Alors, Bruce, à nouveau, peut-être que ce dont on a besoin, ça n'a pas encore été fait. Peut-être qu'on peut dire une fois par mois, voilà la liste des choses soumises à commentaires publics. Greg, au micro, oui, il faut le faire plus d'une fois par mois parce qu'il faut le faire en temps réel pratiquement. Il y a tellement de chevauchements entre les périodes de commentaires publics que le faire une seule fois par mois, ce n'est pas suffisant. Bruce, au micro, peut-être une fois par semaine. Greg, au micro, oui, discutons de cette fréquence, je ne sais pas. Mais il faut aussi prévoir quels sont les matériaux dont on va avoir besoin pour qu'on sache que pour telle période de commentaires publics, on va avoir besoin de tel ou tel matériau. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des commentaires qui viennent des groupes de travail, du conseil d'administration, du personnel et encore d'autres endroits. Donc, Bruce, au micro, oui. Peut-être qu'une autre personne peut répondre sur ce point. Peut-être dire voilà le type de commentaire public et voilà le commentaire public suivant qui va venir pour que vous vous prépariez. Je ne sais pas si c'est approprié. Est-ce que vous êtes d'accord, Greg? Bien. Greg au micro. Parfait. Est-ce qu'il y a également interventions de mes collègues? Bonjour, Karen au micro. Oui, je pense que ce que vous avez suggéré, c'est une excellente idée. Mais étant donné le flot de mails qu'on reçoit de la part de l'EICAN, effectivement, il faut que ça soit réuni sur une seule page à laquelle on ait accès. Également, je participe en tant que coordinatrice de la participation et de la politique. Et donc, ma responsabilité, c'est justement de trouver les commentaires publics et d'essayer d'en faire une liste résumée. C'est réellement difficile à faire. La chose la plus difficile, c'est d'essayer de trouver un endroit sur le site web de l'ICANN pour le faire. Et je suis sans arrêt, j'ai sans arrêt peur de rater quelque chose. Donc, si vous pouviez réunir tout cela sur une seule page, ce serait extraordinaire. Et j'apprécierais énormément que ce soit fait. Merci de cette suggestion. Également, la période de commentaires publics devrait être plus longue. Je sais qu'on l'a dit plusieurs fois, mais les choses ne s'arrangent pas. La communauté des entités commerciales, les experts en propriété intellectuelle, les juristes spécialisés dans la propriété intellectuelle ont leur propre processus d'approbation de ces commentaires. Et donc cette période est beaucoup trop courte. Il faut consulter les clients sur les questions qui sont en jeu. Et donc, même si on essaie de faire en sorte que les membres de la communauté puissent participer de manière plus simple et rapide, ça prend beaucoup plus de temps que la période que vous nous avez proposée. Donc, c'est beaucoup trop réduit comme période. Il y a d'autres parties prenantes dans la communauté qui n'ont pas ce genre d'exigence, mais malheureusement, nous, entités commerciales, nous les avons. Donc, on l'a déjà dit auparavant, rien n'a été changé. Et il serait bon qu'à un moment ou à un autre, ce commentaire soit pris en considération. Bruce au micro. Donc, vous demandez une période de commentaire public plus longue, c'est ça? Mais ça va ralentir le rythme un petit peu des choses. Par exemple, on l'a fait sur la responsabilité et on a essayé de progresser aussi vite que possible. Karen au micro, oui, effectivement, ça c'est une autre conversation. Toutefois, ça étant dit, il y a un juste milieu entre le fait que vous nous demandiez de répondre très rapidement et nous laisser un temps raisonnable pour faire ces commentaires. Parfois, il y a certaines parties du processus qui sont trop rapides et d'autres lentes. Donc, il faut être critique vis-à-vis de cela et avoir une conversation honnête et ouverte ensemble. Parce que ça fait 4 ans maintenant que je viens aux réunions de l'ICANN et à chaque réunion, à l'exception d'une, on a fait ce commentaire. me semble-t-il, à chaque réunion, on a fait ce commentaire. Or, on n'a jamais eu de discussion ouverte sur la manière d'atteindre un équilibre entre la période de ces commentaires publics et pour atteindre un équilibre sur la durée de cette période de commentaires publics. Bruce au micro, oui. Alors, peut-être que une actualisation sur le site web serait bonne. Autre intervenant au micro, oui, il y a une page sur le site ICANN.org qui contient toutes les informations sur les commentaires publics. Karen au micro, oui, moi je parle des RSAPS, des RSEP. Autre intervenant au micro, oui. Donc, vous dites que la période de commentaires publics est trop courte. Je ne me souviens plus que ce soit produit, sauf cas extraordinaire. Donc, le minimum, c'est 32 jours plus 2, 42 jours plus 2. Il y a une distinction entre commentaires publics et avis public. Comme vous le savez, c'est une lorsqu'une question est soumise à la période de commentaires publics, elle est publiée sur ICANN.org/public comment. Donc, ensuite, tous les thèmes liés aux commentaires publics sont ensuite publiés. Et il y a des dizaines et dizaines de commentaires publics. Donc, vous avez l'opportunité d'apporter votre contribution, mais ce n'est pas ce qu'on appelle les commentaires publics. Donc, voilà un petit peu la distinction qu'il faut faire et qu'il faut avoir bien présente à l'esprit. Autre intervenant au micro. Vous avez dit que, voilà, on prévoit de faire cela, on a demandé à quelqu'un de faire cela, mais on aimerait que cette personne vienne nous parler de cela, parce que il faudrait que ce soit tout au même endroit, il faudrait que ce soit plus simple. Ensuite, l'unité constitutive des représentants de la propriété intellectuelle est venue à plusieurs reprises pour demander au bureau d'enregistrement des explications par rapport aux conditions de rétention des données. Et on n'a jamais eu de commentaires là-dessus. Donc, ce dont il s'agit ici, c'est qu'on a invité les commentaires publics, que vous les appeliez avis public aux commentaires publics, pour faire un tri. Et Karen, ici, essayer de dire que ce qu'il était important, c'est que les gens participent davantage et de manière plus diversifiée. Autre intervenant micro, oui, pour essayer de répondre à Cyrus. Ce qu'on a ici, c'est un problème d'expérience. Le site web, du point de vue de l'utilisateur ou du point de vue de la société, du point de vue de l'utilisateur, il s'en fiche que ce soit un commentaire public ou pas. S'il s'agit d'un commentaire public, ce devrait être sur la même page. Mais ça dépend du point de vue qu'on adopte. Est-ce que c'est celui de l'utilisateur ou celui de la société commerciale? Donc voilà, simplement informer les utilisateurs. Bruce au micro, oui, c'est justement l'avantage de ce type de forum. Vous donnez vos suggestions et on peut les adopter. Donc, le personnel note vos suggestions et ensuite agit en conséquence. David au micro, oui, effectivement, nous supervisons le forum des commentaires publics. Notre objectif est de nous assurer que vous pouvez faire ce commentaire de manière opportune. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile de trouver les choses. Nous avons eu une série de commentaires sur ce processus. Avant, c'était 21 jours de commentaires, on l'a étendu en raison des contributions de la communauté, pour au moins 42 jours plus 1. Et pour exception, il faut qu'il y ait un haut responsable de l'ICANN qui l'approuve. Donc on essaie d'accorder plus de temps plutôt que moins de temps. Effectivement, votre suggestion pour que tout soit rassemblé sur une seule page, je vous en remercie, c'est une excellente suggestion. Rassembler tout sur une même page pour simplifier les choses. Tout à fait. Nouvel intervenant au micro, David, oui, je suggérerais peut-être un calendrier aussi sur cette page. On a encore quelques minutes. J'aimerais passer à une des questions sur lesquelles le conseil d'administration nous a demandé de faire un commentaire, la diversité. Je vais passer la parole à Karen. Karen, encore moi au micro. Je crois que l'idée de la diversité a à voir avec la conversation qu'on vient d'avoir sur les commentaires publics. Parce que les barrières, les entraves qui existent à l'entrée, pour que les gens entrent à l'ICANN affectent notre capacité à sensibiliser les gens. Et même s'il y a un fort engagement pour augmenter la diversité géographique et la diversité du genre, la diversité raciale aussi, on a encore beaucoup à faire. Et c'est difficile de participer au processus de l'ICANN parce que, d'abord, il y a tellement de commentaire public et la courbe d'apprentissage est tellement rude que ça pose toute une série d'entraves aux gens qui veulent rentrer à l'ICANN. Et la manière dont nous nous sommes engagés avec les outils que nous a donné l'ICANN pour essayer de rendre tout ce processus moins lourd n'a pas toujours été efficace parce que les candidats ne sont pas toujours en phase avec les critères qui sont posés. Donc, si vous êtes avocat ou une personne qui travaille dans une activité commerciale, c'est pas toujours facile de s'entendre. Et on n'a pas. Et ces personnes-là n'ont pas toujours forcément besoin du. Ne voient pas toujours l'intérêt de venir à l'ICANN pour obtenir un financement. Donc. Ce n'est pas forcément une coïncidence si moi, femme, je soulève cette question de la diversité des genres. Mais ce que j'aimerais dire à ce sujet, c'est que dans un monde où les femmes doivent travailler deux fois plus pour gagner autant que les hommes, et cela qui s'ajoute au dysfonctionnement de la communauté ICANN, ça c'est difficile. Donc, même s'il est difficile à l'ICANN de suivre les commentaires, les sujets en cours, la courbe d'apprentissage, sachez que pour une femme, c'est deux fois plus difficile encore. Je pense que nous, les femmes, nous sommes en train de faire un travail extraordinaire à l'ICANN, mais je sais que c'est très dur. Vous vous souviendrez peut-être pour certains d'entre vous que j'ai dû amener mon bébé de 3 mois à une conférence de l'ICANN qui s'est mise à pleurer d'ailleurs. Donc c'est vraiment dur d'être une femme à l'ICANN, d'être un membre d'une communauté minoritaire à l'ICANN. Donc merci au conseil d'administration de nous aider sur cette question. On est tous engagés vis-à-vis de cette question, mais n'oublions pas que nous sommes une communauté et qu'il faudrait qu'il y ait une conversation, encore une fois, franche, ouverte et de fond sur cette question parce qu'il y a un certain manque d'intérêt et une certaine inaction de la part des IPC. Nouvel intervenant au micro, merci de ces commentaires. Je crois que vous vous souviendrez que lorsque vous faisiez la queue devant le micro avec votre bébé dans les bras, vous avez reçu notre soutien et, comme vous le disiez, il y a plusieurs personnes qui ont une courbe d'apprentissage très rude aussi. Donc ça fait partie des efforts et des priorités qui figurent sur notre programme. Il faut trouver des solutions pratiques pour peut-être pas créer une crèche ici lors des les conférences ICANN, mais je ne sais pas quelles solutions on pourrait trouver. Karen au micro, oui, je vois que des gens qui sont en train de s'étouffer dans la salle. Mais souvenez-vous que on s'est réunis à Dublin entre femmes pour voir comment partager une babysitter entre nous lors des réunions à Cannes pour être plus efficace. Donc on a demandé à l'ICANN, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver une babysitter? Et on nous a dit non. Donc je vois que vous êtes en train de rigoler dans la salle, mais sachez que c'est une discussion qu'on a eue. Ce serait une excellente idée. Nouvel intervenant micro, merci d'avoir suggéré cela. Si vous voulez avoir cette discussion, il n'y a pas de problème. Ayons cette discussion. Nouvel intervenant au micro. Bruce, vous avez un micro derrière, madame? Nouvelle intervenante au micro. Je ne veux pas prolonger trop le débat, mais c'est un débat important. Parce que lorsqu'il s'agit de diversité, il s'agit de diversité régionale, des genres, bien entendu. Oui, on a dit dans la séance précédente qu'il ne fallait pas parler de diversité des genres, mais d'équilibre des genres. Donc, pour les femmes professionnelles, et d'ailleurs, vous observerez que parmi les membres du conseil d'administration qui sont au panel, il n'y a pas une femme. Donc, pour les femmes, il faut forcément faire plus, parce que les femmes doivent choisir, elles doivent prendre des décisions et donc elles ont forcément plus de travail à accomplir, surtout dans cet environnement. Donc j'aimerais revenir sur ce qui a été dit par rapport au financement, parce que je crois qu'on n'en a pas débattu au conseil d'administration. Donc par rapport à la question que vous avez soulevée, j'aimerais pas qu'on travaille sur la piste de travail numéro 2, j'aurais préféré une discussion auparavant. Et l'ICANN adopte toujours une approche pragmatique. On a tendance à passer rapidement sur quelque chose parce que quelqu'un a décidé, voilà, on va adopter ça et je suis sûre que j'ai couvert tout cela. Donc je ne peux rien vous promettre pour l'instant, mais nous allons bien entendu débattre de cela à l'avenir. Merci. Karen, au milieu. Oui, je me souviens que Erika avait proposé de prendre dans les bras mon bébé lorsqu'il s'est mis à pleurer. Autre intervenant, voilà. Sur ce, nous en avons fini avec le programme de l'IPC. Greg au micro, oui. Autre forme de diversité qu'il faudrait améliorer, c'est la diversité en termes de handicap, en termes d'accessibilité sur le site web ICANN, sur le sous-titrage et autres éléments qui ont à voir avec le handicap. Les problèmes de vision ou les problèmes moteurs ou d'audition. Donc, il est important de faire un effort en la matière parce que parfois, cela, c'est un droit qui est inscrit dans la loi, hein, dans plusieurs pays. Autre intervenant au micro, Bruce. Oui, si vous avez un autre commentaire à faire. Autre intervenant, oui. L'IPC, nous sommes ici, en bout de table. Je suis Rovel Knobel, vice-président du groupe de travail de l'IPC et j'aimerais vous présenter le résultat de notre travail. Avant de ce faire, je pense qu'il serait important de dire aux membres du conseil d'administration les choses que nous avons enregistrées jusqu'à présent, qui démontrent d'ailleurs nos contributions à cette communauté. Je vais être bref. Alors, nous essayons de parvenir à un consensus sur la transition IANA et sur la responsabilité, l'adoption des questions liées à la responsabilité. Mais je peux vous dire que jusqu'à présent, nous sommes parvenus à un consensus afin d'approuver l'ensemble des propositions qui ont été faites. Et étant membre de la GNSO, sachez également que nous acceptons ce processus difficile et que le vote ne va pas être une chose facile au sein de la GNSO. Mais nous faisons de notre mieux, nous sommes en train de faire de notre mieux pour y parvenir. Autre exemple et autre point que je voulais soulever par rapport à l'acceptation universelle, mon collègue sur ma gauche travaille énormément sur cette question au sein du comité directeur sur l'acceptation universelle. Et jusqu'à présent, ce comité directeur est d'ores et déjà presque parvenu à finaliser le guide CTO concernant l'acceptation universelle. Cela constitue un pas en avant très important afin d'appliquer ce guide et de doter la communauté technique des outils nécessaires pour ce qui concerne l'acceptation universelle. Donc c'est vraiment important qu'on puisse avoir votre soutien permanent pour ce type d'activité parce que nous le faisons de manière prolongée. Donc, autre sujet abordé par rapport à la réforme de la GNSO, j'aimerais souligner que cela soulève des préoccupations parce que cela vient du fait que la structure actuelle au sein de la CCNSO n'était pas correcte et que ces préoccupations n'ont pas été prises en considération jusqu'à présent. Donc, à plusieurs reprises, nous avons fait part de notre déception par rapport à cela. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de réponse de la part de la CCNSO par rapport à l'efficacité de la GNSO. Et l'unité constitutive des entités commerciales à laquelle nous appartenons n'a pas pu présenter ensemble de manière unifiée les aspects les plus importants de la transition des fonctions IANA et pour tout ce qui concerne la responsabilité. Donc tout cela a été soulevé et nous nous félicitons que la dernière fois à Dublin, des membres du conseil d'administration sont venus nous voir en nous donnant des réponses qui ont été très utiles pour nous et nous ont invités à redoubler d'efforts pour intégrer ces idées et lancer ou débuter une activité, si possible, dans le lancement de cette discussion avec la GNSO. Donc, cette activité, cette initiative a été prise au sérieux. Nous l'avons transposée à la réunion que nous avons eue à Los Angeles entre les réunions. Et donc, nous avons travaillé sur une question pour commencer à parler de ce problème de manière bilatérale. Et essayer de trouver ensemble une manière de travailler de cette manière. Donc, ce que l'on a fait jusqu'à présent, en tout cas, le résultat qu'on a obtenu jusqu'à présent, c'est qu'on pourrait constituer un groupe de travail commun pour parler de ces différentes questions concernant la nouvelle structure, non seulement pour la GNSO dans son ensemble. Donc, s'agissant d'un processus embryonnaire encore, peut-être que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que pour l'avenir, on a besoin de faire une distinction claire entre les différents besoins en termes d'unité constitutive dans cette nouvelle structure, parce qu'on a souvent dit aux membres du conseil d'administration qu'il s'agit de différents groupes, celui des entités commerciales, celui des membres du conseil d'administration, parce qu'il faut bien prendre en considération donc les besoins de l'unité constitutive dans son ensemble. Donc voilà ce sur quoi on se penche de près et nous aimerions recevoir le soutien du conseil d'administration. Nous voulions communiquer ces activités au conseil d'administration ainsi que l'objectif que l'on s'est fixé. Dans le cadre de ces discussions, on a également parlé de l'aspect diversité. C'est un aspect essentiel. On a déjà eu cette discussion avec la GNSO dimanche. Vous nous posiez cette question. Comment traitons-nous la question de la diversité dans les différents groupes? Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ICANN fait énormément dans le domaine de la sensibilisation afin d'améliorer la diversité. Mais la sensibilisation dans ce sens, dans le sens où vous invitez les gens à participer aux réunions, etc., c'est important. Donc, je crois que mes collègues des autres unités constitutives pensent que la sensibilisation, c'est aussi aller dans les endroits. Ça, c'est essentiel. Et là, on a besoin de soutien aussi. Ça veut dire qu'on a commencé des activités en allant à des conférences pour représenter nos intérêts en tant que fournisseurs de services Internet pour partager des informations sur ces questions. Et de ce point de vue, on a besoin et nous aimerions vous demander votre soutien dans ce domaine. Pour ce qui concerne les autres aspects de la diversité, parce que ça, c'est la première étape. Nous aimerions donc qu'il y ait une plus grande diversité de genre, d'abord, en sensibilisant pour attirer plus de femmes dans nos unités constitutives. Il faut également prendre en considération la diversité géographique et les autres types de diversité qui s'en trouveront améliorés. Donc, jusqu'à présent, voilà ce que je voulais dire pour le premier point. Question pour discussion. Donc, soutien continu du conseil d'administration et intérêt des groupes multiparties prenantes.
Nouvel intervenant. Merci, Monsieur Ulrich. Et vraiment, nous vous félicitons pour le travail que vous avez fait pour l'acceptation universelle. Le bureau du conseil d'administration vous remercie. Vous avez vraiment fait un rapport de l'histoire de toute cette discussion depuis l'année dernière à Washington avec cette recommandation que vous aviez écrite pour le conseil d'administration. Il y avait eu donc un comité d'efficacité, ensuite il y a eu un comité d'amélioration de structure et la réaction du bureau d'administration a été régulière. Si vous avez un problème, nous voulons bien sûr vous donner du support et nous n'allons pas imposer une solution. Je pense que il y a donc satisfaction avec la structure présente. Vous devez être fier du fait que vous avez commencé ce processus afin de faire face à cette question. Comme nous vous l'avons dit, nous soutenons ce processus. Peut-être devons-nous en discuter un peu plus dans des termes pratiques. Peut-être pouvons-nous allouer une salle pour cela dans les réunions et peut-être vous retrouver avec notre personnel. Vous avez posé d'autres questions au sujet de la sensibilisation. Il y aurait donc besoin, on aurait donc peut-être d'y réfléchir un peu plus afin de parler de l'aspect de diversité. Cela fera partie de la piste de travail numéro 2. Nous étudierons le problème plus en détail pour voir ce qui peut et ne peut pas être fait. Vous avez aussi suggéré que vous aimeriez plus de support au niveau financier. Et nous allons vraiment essayer d'étudier un cadre de travail du budget. Ce sont des questions sur lesquelles nous devons parler. Nous ne pouvons pas réagir de suite là-dessus, mais soyez rassurés, le conseil d'administration soutient vos efforts pour améliorer la diversité qui a aussi été suggérée par l'IPC. Ce n'est pas facile de finaliser ce projet. Nous en avons déjà discuté dans différentes réunions. Nous avons été mentors, nous avons soutenu ces efforts d'intégration et nous devons vraiment évaluer les manières efficaces qui peuvent être utilisées. Peut-être mes collègues au conseil d'administration veulent rajouter quelque chose là-dessus. Rinalia est au micro. Rinalia Abdulrahim au micro. Merci, Marcus. L'acceptation universelle, vous, là-dessus, vous faites beaucoup de progrès sur les réformes. Sur la réforme de l'EGNESO, on en a parlé à Dublin, il y a une discussion sur ce sujet demain après-midi. Ça s'appelle Bird of the Feather. C'est un endroit sécurisé pour la communauté GNSO pour que ces personnes viennent partager les idées sur ce qui est nécessaire pour finir cette réforme. Il n'y a pas de pression, c'est une discussion entre vous. Nous avons créé cet espace pour cela et si vous avez besoin de plus de soutien, laissez-nous savoir afin que nous puissions vous aider. Merci encore une fois. Et le comité d'efficacité d'organisation s'attend à recevoir votre rapport de la part du conseil de la GNSO pour pouvoir être révisé par un examinateur indépendant. Si vous pensez que cette partie du travail n'a pas été adressée, donnez-nous votre suivi avec votre rapport et le comité prendra ça en compte dans ses délibérations. Merci. Un nouvel intervenant, Ulrich, je pense. Wolf Ulrich, oui. Merci, Rinalia. Un commentaire rapide sur cette session qui aura lieu demain. Puisqu'il y a eu un peu de confusion de la part de la communauté, pas seulement la nôtre, mais dans d'autres communautés, parce qu'il s'agit du sujet, puisqu'il n'y avait pas eu de beaucoup de détails donnés. Je pense qu'il serait utile de comprendre dès le départ que c'est un forum ouvert, rien d'autre. La question qui se pose est que si nous allons parler des conséquences demain qui peuvent aider, afin de pouvoir aider la communauté avec des idées ou des commentaires, cela pourrait représenter une étape. Nos activités commencent dans la chambre des parties non contractuelles. Nous allons pouvoir commencer en élaborant un projet. Une nouvelle personne au micro. Oui, j'ai un commentaire rapide. Tout d'abord, j'apprécie les remerciements que nous avons reçus sur le travail que nous faisons pour l'acceptation universelle. Je voudrais remercier le bureau d'administration pour son support ainsi que le personnel. Et puis, pour tous les efforts de que la CAN fait vis-à-vis de l'acceptance universelle, vous avez donc aidé énormément. En ce qui concerne le travail que nous avons fait pour commencer la conversation, il s'agit d'un début. Et la première chose que nous devons faire lorsqu'il s'agit d'englober exactement ce que nous voulons donner comme titre à cette discussion ou à ce groupe, ce n'est pas un groupe de travail, c'est un groupe de gens qui vont discuter de sujets qui vont nous aider à agir dans l'avenir. Nous voulons qu'il y ait un objectif clair. Nous en avons un déjà sur les accomplissements que nous voulons avoir éventuellement. Mais nous ne voulons pas que ce soit un club de discussion. Nous voulons qu'il soit structuré. Et nous voulons trouver un nom qui soit approprié. Et cela est difficile. Donc s'il y a des recommandations, nous voulons les entendre. Et nous, quand nous parlons de la diversité aussi, je voudrais que le conseil d'administration considère nous aider dans cet effort. Il y a des programmes qui sont extraordinaires déjà et nous utilisons ces programmes, comme le programme CROP, mais vous devez le faire au niveau régional. Et là, chaque unité constitutive n'a qu'un certain nombre de membres actifs qui veulent bien être bénévoles et donner leur temps dans chaque région. Quand on n'a pas assez de support dans une région, trouver une personne qui veut aider, c'est difficile. Donc, ouvrir ce programme CROP pour sortir des régions nous aiderait. Nouvel intervenant, merci. Monsieur Ulrich au micro, Wolf Ulrich. Je voudrais résumer un peu. On parle de la mise en œuvre, pardon, pour voir quand il s'agit de la piste de travail numéro un. Malcolm Hutty au micro. Merci, Wolf Ulrich. Je parle de la mise en œuvre, de la phase de mise en œuvre de la réforme de responsabilité du CCWG. Nous avons compris jusqu'à présent que nous n'avons pas eu une approbation de la communauté complète de la part de toutes les organisations à propos de ce rapport. Nous avons entendu certaines d'entre eux d'entre elles qui ont fait des commentaires, mais nous anticipons demain. Après cela, le conseil d'administration va devoir approuver et nous savons que la déclaration du conseil d'administration est déjà faite pour que la mise en œuvre soit faite. Ils doivent suivre certains critères très spécifiques. Donc, j'attends beaucoup de cela. Nous espérons beaucoup et nous sommes confiants. Nous espérons que la communauté soit unie dans son soutien. Et cela, bien sûr, devra inclure le conseil d'administration. Bon, ma question, c'est que va-t-il se passer après? La proposition de réforme sur la responsabilité est connectée avec la proposition de transition. Alors, là, une bonne partie de la communauté a dit qu'il y avait que la transition demandait à ce que les réformes soient faites, la réforme de la responsabilité. Mais il y a des propositions de la communauté qui forment un certain aspect de l'ICANN, qui forment les règlements de base de l'ICANN. À l'intérieur, à l'interne de l'ISPCP, nous supportons ce processus et les résultats. Et nous espérons que toute la communauté soit d'accord. Nous espérons que cela sera positif afin de passer à la mise en œuvre et que tout ceci soit accompli en temps et en heure. La proposition fait partie de la transition. La transition doit rentrer dans une phase qui sera un petit peu en dehors du contrôle de cette communauté. Il s'agit d'une phase politique contrôlée par la NTIA. De certaine façon, à ce moment-là, nous savons que cela sera outre le contrôle de notre communauté. D'autres acteurs doivent rentrer en jeu. Donc, nous avons quand même beaucoup d'espérance, nous avons beaucoup d'attentes, nous espérons que tout cela continuera de façon limpide. Il pourrait y avoir aussi une possibilité à considérer que durant cette phase politique, il pourrait y avoir des délais pour donc des raisons politiques. Ainsi, je me pose la question, comment est-ce que le conseil d'administration va traiter la mise en œuvre de la réforme de responsabilité dans le cas où il y aurait des délais imprévus et des obstacles en ce qui s'agit de la proposition de transition. Nous espérons au NPCP que le conseil d'administration voit ces réformes comme quelque chose de contractuel vis-à-vis de la communauté et qu'ainsi le conseil d'administration reste engagé et mette en œuvre cette réforme tout de suite. Et nous espérons qu'il n'y ait pas de suspension, d'arrêt ou de délai dans la mise en œuvre de ces réformes. Est-ce que le conseil d'administration est d'accord avec nous sur ce sujet? Bruce Tompkins, au micro. Je voudrais éclaircir les choses. En fait, c'est un petit peu à l'envers. Nous avons un mois pour finir les statuts constitutifs et ensuite il y aura une période de commentaires publics et notre intention c'est d'avoir une approbation sur ces statuts d'ici le début de juin. Le rapport NTIA sera fait d'ici mi-juin et ensuite nous pourrons dire oui, c'est bon, le NTIA est d'accord. Ensuite, nous devrons fournir un rapport à la NTIA mi-août pour dire que non seulement nous avons accepté les statuts constitutifs, mais que nous avons aussi mis en œuvre toutes les parties. Nous avons réussi à fignoler le projet. Nous aurons ainsi mis en place un panel. Donc, il y a beaucoup de morceaux, disons, de puzzles à bouger. Nous fournirons un rapport au NTIA pour dire que tout cela est complet. Et ensuite, nous fournirons au NTIA. Cela permettra donc, au NTIA de nous donner son avis. Si nous n'avons pas complété la mise en œuvre d'ici mi-août, nous pouvons demander une extension. Et le NTIA pourra ainsi décider s'ils peuvent nous donner une extension au-delà de septembre. Et ensuite, nous pourrons aussi mentionner dans notre rapport d'août si nous voulons une ou deux semaines de plus. Donc, nous voulons que ces statuts constitutifs soient finis d'ici fin juin et que la mise en œuvre soit faite d'ici août. Et ainsi, si nous devons demander une extension, le processus politique pourra. Si le processus politique nous demande de ne pas continuer avec la transition, nous savons que les statuts constitutifs qui seront déjà en place, et ainsi nous pourrons changer les termes du contrat avec le NTIA ou si nous conservons l'état du contrat actuel. Ensuite, nous pourrons en résumé, c'est cela. Nous ne pensons pas avoir des délais. Nous allons essayer de travailler le plus rapidement possible. Le nouvel intervenant, Malcolm Hattie. Oui, c'était très utile. Et je voudrais revenir sur certains des éléments pour être sûr que j'ai bien compris. Même dans le cas où il y aurait des problèmes politiques avec la transition, est-ce votre intention que nous aurons mis en place les changements pour la réforme de responsabilité et que nous aurons mis en place les autres aspects de cela, s'il y en a? Est-ce que des obstacles de politique pourraient affecter donc cette transition? Bruce Tompkins, nous devons nous assurer que s'il y a des changements, il n'y ait pas de conflit avec l'accord. Cela n'engagera pas le travail que vous avez fait, mais ça pourrait engager certains des processus qu'il y a dans ce contrat. Oui, j'ai compris. Nouvel intervenant. Bruce Tonkin, non, Shirin Chalabi. Quand il s'agit de la réforme de responsabilité, je pense que le train est parti de la gare. Je pense que pour cela, la communauté est d'accord. Si la communauté n'avait pas été d'accord, cela serait différent. Donc, nous nous sommes engagés à aller de l'avant avec ce projet, même s'il y a des obstacles politiques. Donc, quand on parle de ce que disait Bruce, nous soutenons cela. En fermeture, je voulais faire un commentaire rapide, dit Malcolm Hattie. La communauté a beaucoup travaillé sur ce processus. C'était vraiment un accomplissement pour que la communauté puisse se rassembler sur ce sujet. Beaucoup d'entre nous ont passé énormément de travail là-dessus pour vraiment travailler sur ce CCWG. Je voudrais remercier la communauté pour cela. Alors, le nouvel intervenant, Wolf Ovrig au micro, pardon. S'il devait y avoir une chance que le conseil d'administration pouvait faire, disons, une déclaration durant le problème forum public, cela serait très utile. Bruce Tonkin, je ne voudrais pas avoir trop de mise en garde à vous donner, mais en ce qui concerne le processus politique par rapport à notre travail, nous devons nous faire attention. Nous ne devons pas anticiper trop à l'avance. Le message en ce moment, c'est que nous sommes un peu à un point d'attente. Mais nous sommes tout à fait d'accord pour faire passer le message à la communauté. Chris Wilson, je suis directeur de l'unité constitutive commerciale. J'ai avec moi mes collègues, Steve DeBianco, Steve Jensen et Denis Micalé. Si nous prenons la parole en dernier, c'est que nous vont parler de nos propres problèmes et des sujets que vous avez soulignés déjà. Je voudrais parler de la question de la diversité qui a été adressée par le conseil d'administration. Tout d'abord, je voudrais parler de ce que Ulrich a parlé tout à l'heure quand il s'agit de la session qu'on appelait Birds of a Feather. En parlant de la réforme qui a été annoncée par la GNSO, nous avons une conversation intéressante avec toutes les parties concernées, les parties non contractuelles, pardon. Nous ne voulons pas aller au-delà de cela pour l'instant, mais nous avons seulement un engagement de ce côté-là. Nous savons qu'il s'agit d'un forum ouvert et nous ne voulons pas trop anticiper sur ce que nous voulons accomplir. Et rapidement, je voudrais faire un suivi sur la période de commentaires publics dont on a parlé tout à l'heure. À notre avis, nous savons que nous avons vu plus de 40 périodes de commentaires publics l'année passée dans la CAN. C'est à cause du travail, bien sûr, de Steve, qui est à côté de moi, mais aussi, nous savons, ainsi que les membres de la communauté se préoccupent beaucoup des sujets qui sont en cours. Nous remercions cette opportunité d'être avec vous ici aujourd'hui, bien sûr. Nous voulons que le conseil d'administration va prendre au sérieux les commentaires publics que nous avons publiés parce que nous avons passé beaucoup de travail à les mettre en place et souvent nous avons l'impression qu'on ne nous écoute pas forcément, qu'on nous entend mais qu'on ne nous écoute pas. Je voulais juste faire passer ce message. puisque nous en avons parlé tout à l'heure. Je voulais faire suite à cette conversation. Bruce Tompkins, au micro. Quand le conseil d'administration voit venir une politique et doit prendre une décision, et par exemple quand la GNSO fait une recommandation vis-à-vis du board, nous assumons que la GNSO a déjà reçu votre avis. Mais si vous pensez qu'il y a des recommandations qui doivent venir vers le conseil d'administration et qui vous inquiètent, c'est vraiment le forum justement pour amener cette question. Chris Wilson, non, ce n'est pas seulement à propos du GNSO, c'est un point en général. Nous passons beaucoup de temps là-dessus et nous espérons que dans l'avenir, certaines considérations seront prises par le conseil d'administration. Et nous espérons être aussi actifs en 2015, autant que nous l'avons été en 2016, autant que nous l'avons été en 2015. Je vais passer la parole à Steve rapidement pour qu'il réponde sur la position du BC sur la responsabilité, afin de pouvoir donner notre avis au conseil d'administration. Steve, au micro. Oui, le BC soutient la proposition pour la responsabilité. Nous avons aussi dédié nos efforts afin d'être des plus actifs sur l'adoption des statuts constitutifs et sur la proposition. Nous allons essayer d'obtenir aussi plus de bénévoles dans notre communauté parce qu'il y a énormément de travail à faire. Même si nous sommes très, très fatigués, nous devons, d'ici la fin de la semaine, nous devons tout de même trouver des volontaires pour y travailler. Je vous remercie beaucoup. Jamison, au micro. Je suis vice-président pour les finances et les opérations de la BC. Je représente l'Afrique au sein du BC, de l'unité constitutive des commerciales. Le travail, tout ce travail est interlié, disons. Nous voulons inviter le conseil d'administration à faire une analyse du rapport. Nous sommes ici, nous avons un rapport de sensibilisation qui a été fait et publié en anglais et en français. Nous sommes ici à cette réunion. À Dublin, j'avais parlé du budget, des restreintes de budget, si vous voulez, auxquelles nous avons à faire. Nous espérons qu'il y ait une amélioration en 2017. Après avoir parlé et discuter, nous sommes rendus compte que nous avions des défis et nous voulions que le conseil d'administration le sache. Il y a des gens ici à cette réunion qui font partie de notre programme de participation de leadership et qui ont des restreintes, disons, financières. Nous aimerions donc suggérer une amélioration pour pouvoir aider ces gens-là et leur donner les moyens de participer et que certains bureau d'enregistrement puisse être invité. Je voudrais faire un commentaire sur les ISPC, sur les ISPCP, et je fais un commentaire sur le programme CROP. Je pense que ce programme serait bon, qu'il ne soit pas restreint à certaines régions, mais qu'il puisse avoir un impact sur d'autres régions. Et en dernier, je voudrais remercier l'ICANN, féliciter l'ICANN avec son programme de mentorat qu'il a commencé. Et je voudrais qu'on le continue, ce programme de mentorat. Merci. Marcus Comer, merci Steve et Jamison pour vos commentaires. Nous avons pris note de tout cela. Et nous sommes conscients de tous les problèmes que vous avez aussi eus avec les visas, etc. Et le personnel s'en occupe. Et c'est un processus compliqué, mais souvent, ce n'est pas sous notre contrôle, mais nous pouvons essayer de vous aider à faciliter les choses. Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais nous allons vraiment analyser toutes les choses dont vous nous avez parlé. Chris Wilson. Oui, il nous reste un peu de temps et nous allons ainsi parler du RSAP et aussi des contrats de notices de confiance, des TNA. Nous allons tout d'abord parler du RSEP. L'unité constitutive commerciale voit qu'il y a un besoin pour évaluer le RSEP. Nous voulons embaucher un consultant, un conseiller externe pour pouvoir obtenir un rapport sur ce qui se passe au sein de ce programme depuis le début. Vous savez que ce programme a 10 ans maintenant et puis il y avait quatre candidatures RSEP à l'époque, mais après il y en a eu 9 en 2016. Et maintenant vous en avez 9 en 2016. Nous voyons donc qu'il y a une évolution à ce sujet. Quand il s'agit du type de données, nous voyons qu'il y a une fréquence, un type, des résultats. Nous voyons que maintenant nous avons les données de résultats de fréquence de ces données. Donc, il s'agit d'exemples de ce qui pourrait nous aider, pour aider la communauté à obtenir plus de transparence dans ce qui s'agit du processus RSEP. Voilà, je vais vous parler un peu du travail de base que nous faisons et ensuite je vais laisser Michel donner plus de détails au conseil d'administration.
Denise au micro. Bien, il s'agit de collecter des données et d'analyses qui est particulièrement critique actuellement puisqu'il y a une augmentation de cette question dans un nombre croissant d'opérateurs de registre GTLD. Donc, le nombre de RSEP a été posté pour commentaires publics et pour mise en œuvre. Donc, lorsque ce programme a été lancé, il y en a eu 9 demandes de RSEP en 2000, pour les deux premiers mois de 2016, et on en attend beaucoup plus. Donc, nous avons nommé un expert, un chercheur. Non, nous aimerions plutôt demander au conseil d'administration de nommer un expert, un chercheur, pour publier cette information afin de nous permettre de mieux comprendre le fonctionnement de ce programme, la manière dont la communauté a participé, comment les panels ont travaillé. Et je pense que c'est important à comprendre. Voilà un petit peu comment ce programme a été utilisé. Bruce au micro, merci. Je vais demander à Cyrus peut-être de commenter cela. Oui, le fait qu'on obtient plus de requêtes RSEP peut également signifier qu'il y a plus d'innovation par rapport à ce que l'on attend vis-à-vis des nouveaux GTLD. Cyrus Namazi au micro, merci Bruce, merci Denise et Chris. Donc, comme la plupart d'entre vous savez, il s'agit d'un processus politique consensuel. Et pour ce faire, nous l'avons mis en œuvre à l'ICANN. Et il couvre pratiquement la totalité des nouveaux services qu'un opérateur de registre aimerait mettre en œuvre. Donc, il y a 3 composantes par rapport à son évaluation. D'abord, un aspect technique qui a à voir avec la sécurité et la stabilité, un autre avec la concurrence et toutes les questions afférentes. Donc, il y a une analyse qui est faite de ces 3 composantes. Si nous considérons qu'il s'agit d'une question très technique et délicate, alors nous avons ce que l'on appelle un RSTEP. C'est un panel technique et on utilise les services de consultants externes pour ce faire. Ça, c'est si on considère que c'est technique. Si nous considérons que ce n'est pas une question difficile du point de vue technique, alors nous tournons vers les opérateurs de registre pour qu'ils opèrent parfois leurs demandes pour répondre à nos conditions, à nos exigences. Et ensuite, nous approuvons cela. Pour ce qui concerne l'aspect concurrence, si nous considérons que la demande soulève des questions liées à la concurrence, alors on fait appel aux autorités chargées de cette question. Donc, le processus est bien défini. Il figure sur le site RSEP. Il y a un certain nombre de jours qui sont prévus pour chaque étape. Donc, pour l'instant, il y a des RSEP qui sont en cours ou ont déjà été approuvés. Denise au micro, oui, les utilisateurs commerciaux sont bien conscients de sa portée et du fonctionnement. Et ça fait 10 ans qu'il fonctionne sans aucune évaluation. Ce que l'on veut simplement, c'est qu'il y ait une analyse d'experts et une collecte de données de ce programme RSEP qui existe, je le répète, depuis 10 ans. Donc, ce que l'on demande, c'est tout simple, une analyse d'experts et une collecte de données afin de mieux savoir dans quelle mesure ce programme RSEP est efficace ou non et s'il y a des changements éventuels qui doivent être apportés à l'avenir. Et c'est particulièrement important considérant les changements énormes qui ont lieu actuellement dans l'espace des registres, opérateurs de registres et le nombre de propositions RSEP qui ont été proposées. Donc, il semblerait que nous avons pour l'instant la possibilité au sein de la communauté et le temps nécessaire pour nous engager dans ce processus, pour faire des commentaires publics. Donc, là encore, il ne s'agit pas d'un commentaire sur ce programme RSEP. Ce que nous souhaitons simplement, c'est que des données d'experts soient fournies à la communauté. Steve au micro. Oui, en fait, ce que vous posez comme question, ça revient à ce qui suit, en fait. Ça fait longtemps que vous travaillez, et vous travaillez très bien d'ailleurs au sein de l'ICANN, et vous avez participé à beaucoup de processus d'évaluation. Donc, vous aurez certainement une suggestion par rapport au genre de questions qu'il faut poser et qu'il faut explorer, qu'il faut poser à cette personne qui collecterait des données. Oui, le BC, Denise au micro, a toute une série de questions en tête, mais il est certain que cet expert n'aurait pas de problème pour y répondre. On peut vous les envoyer d'ailleurs, ces listes de questions. Autre intervenant au micro, Bruce Tomkin au micro. Pour avoir un ordre d'idée, de quoi s'agit-il? Cyrus au micro, non, je ne sais pas. Mais Bruce au micro, c'est plus 10 que 100, c'est ça? Cyrus au micro. Alors, de quel délai vous parlez en fait? Denise au micro, oui, 10. Entre janvier et février 2016. Bruce Tomkin au micro, oui, il y en a 100, n'est-ce pas? Cyrus au micro, oui, Denise a raison, ce chiffre a augmenté. Bruce Tomkin au micro, oui, c'est ce que je disais, vous en avez 100, donc les documents sont publics, ça a été publié. Mais peut-être qu'il faudrait reprendre les principaux chiffres pour avoir une idée claire en tête. Ron au micro du conseil d'administration. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions que j'aimerais explorer un peu plus. Peut-être que les utilisateurs commerciaux ont certaines hypothèses par rapport à ce qu'il faut explorer. Moi, je suis un peu préoccupée par le fait de collecter des données et parvenir à des conclusions rapides grâce à ces données. Je crois qu'il faudrait voir s'il y a des hypothèses et voir si ces données soutiennent, étayent ou non ces hypothèses. Et peut-être que moi, en tant qu'opérateur de registre, ce qui me préoccupe, c'est, et ça a d'ailleurs été exprimé, que dans certains cas, la seule manière pour apporter des changements fondamentaux au registre, c'est par l'intermédiaire des RSEP. Donc, on est préoccupé par l'ampleur lorsque des milliers de registres et de demandes, comment vous établissez une échelle ou comment vous réunissez tout ça, vous établissez un ordre. Mais j'ai une question spécifique. Est-ce qu'il existe une série d'hypothèses que vous avez élaborées et grâce à ces hypothèses, on pourrait analyser les données? Parce que ce qui me préoccupe, moi, c'est d'avoir des données et ensuite faire des hypothèses dessus. Parce que sinon, voilà, les données vont être là et personne ne va savoir les interpréter. Denise au micro, oui, merci. Non, pour répondre à votre question, nous n'avons pas d'hypothèses. Ce qu'on demande, et là, je me répète un petit peu, ce sont des données de base. Parce que combien de données ont été publiées depuis ces 10 dernières années? Combien de RSEP ont été ont fait l'objet de données détaillées? Combien de commentaires publics ont été enregistrés pour ce type de RSEP, donc on n'a pas d'idée précise en tête, on n'a pas d'hypothèse, mais on voit simplement que ça fait 10 ans que ça dure et que personne ne nous a aidés. On n'a aucune donnée, la plus élémentaire que ce soit. Donc des données fondamentale sur ce qui s'est passé depuis 10 ans. Donc, je comprends bien ce que vous dites par rapport au RSEP, mais nous, ce que nous voulons simplement, c'est mieux savoir ce qui s'est produit avec ce programme depuis ces 10 dernières années. Merci. Nouvel intervenant au micro. Merci. C'est une bonne question. Malheureusement, je crois qu'on a mal géré notre temps. Parce que les gens ont des obligations. Donc, est-ce qu'on pourrait clore cette réunion? Est-ce que vous avez d'autres questions urgentes? Autre intervenant? Non, écoutez, il n'y a pas de problème. Je sais que les gens ont d'autres obligations et veulent aller déjeuner. Donc, pas de problème. J'aurai d'autres occasions de poser mes questions.